première fois qu'il venait ici. Et il s'intéressait quand même beaucoup. Vous priez pour lui. C'est sûrement un garçon très, très bien. D'autre part, je voulais vous dire aussi, si on avait eu chapitre, je leur ai dit, mais c'est bien que les sœurs soient là. Sapiensier, parce que je présume que dans son oraison, serait pas mal. Un petit scolope pourrait chanter ça avec ardeur. Vous voyez que dans une perspective de théologie mystique, l'expérience et l'Esprit Saint, ça ne fait qu'un. Et c'est très juste. Parce que vous prenez l'acte. En théologie scientifique, on distingue l'Esprit Saint et les effets immédiats de l'Esprit Saint. Dans une perspective mystique, on donne l'exercice direct, l'âme sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et l'âme sous la mouvance de l'Esprit Saint ne fait plus qu'un avec l'Esprit Saint. Oui, je crois que c'est très important quand on compare la théologie orthodoxe et la théologie romaine. La théologie romaine, très vite, dès saint Augustin, mais surtout avec saint Thomas, est une théologie où il y a des analyses et donc des distinctions. Tandis que la théologie orthodoxe reste une théologie mystique. Et c'est du reste, je crois, pour ça qu'il faudrait à tout prix que nous ayons une théologie mystique pour être beaucoup plus proche des orthodoxes. On donnerait à lire aux orthodoxes une théologie mystique faite dans la lumière de Saint Jean, en prenant les grands mystiques. Mais un orthodoxe serait tout à fait d'accord. Il serait très étonné qu'un théologien romain puisse faire ça. Parce qu'il ignore ça. Je me souviens, quand je prêchais au Voiron à des jeunes, c'est qu'il y avait un archimandrite orthodoxe qui passait de Macédoine. On m'avait dit, venez lui dire bonjour, ça lui fera plaisir. Alors j'étais lui dire bonjour. Il m'a dit, qu'est-ce que vous prêchez? Alors je dis, Saint Jean. Aime d'une manière très descriptive, tandis que Saint-Jean de la Croix a cette attitude du théologien. Il avait toutes ses études de théologie à Salamanque. Nous l'avons vu, c'est un bon thomiste, sûrement à l'école habituelle des Carmes. Et quand il souligne ça, parce que ça, en théologie mystique, on ne le dirait même pas. On ne ferait pas de comparaison. On montrerait tout simplement que c'est l'âme sous la mouvance de l'Esprit Saint. Donc c'est évident que c'est plus grand que tout. Et les dons du Saint-Esprit sont présents, hein, sûrement. Donc un seul d'entre eux a plus de mérite et de valeur. Voilà la comparaison du théologien. Que tout ce qu'elle a pu faire de plus grand dans toute sa vie avant sa transformation. La différence qui existe entre l'habitude et l'acte se retrouve dans la transformation en amour et la flamme d'amour. Il en est de même du bois enflammé qui diffère de la flamme, car la flamme est en effet du feu dont il brûle. Aussi pouvons-nous dire de l'âme qu'elle est dans cet état de transformation d'amour, qu'elle a contracté l'habitude même de l'amour. Elle est semblable au bois qui est toujours incandescent. Ses actes sont des flammes qui jaillissent du feu de l'amour et s'élancent avec d'autant plus de force que le feu de l'union est plus intense. C'est dans ces flammes que s'unissent et s'élèvent les actes de la volonté. Quand elle est ravie et absorbée par la flamme de l'Esprit Saint, elle agit comme l'ange qui s'éleva vers Dieu dans la flamme du sacrifice de Manoué. Aussi, lorsque l'âme est en cet état, elle ne peut produire des actes par elle-même. C'est l'Esprit Saint qui les produit tous ou qui la porte à les produire. Dès lors qu'elle est divinisée, émue par Dieu, tous ses actes sont divins. Chaque fois que cette flamme s'élance et provoque en elle un amour plein de suavité et de force divine, il lui semble qu'on lui donne à goûter la vie éternelle, car elle est élevée à agir comme Dieu et en Dieu. C'est là un langage, ce sont là des paroles que Dieu adresse aux âmes qui sont purifiées et sans tâche. Quand il traite avec elle, ses paroles sont toutes embrasées d'amour, comme le dit David. Votre parole est toute embrasée. C'est le psaume 128.
Saint, parce qu'elles se nourrissent de choses étrangères, ne pas
la Sainte Eucharistie, chapitre 6 dans Saint Jean, et que beaucoup d'entre eux se retirèrent de lui. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont point goûté ce langage que Dieu tient dans l'intime de l'âme qu'ils doivent s'imaginer que d'autres ne le goûteront pas non plus. Car dans la circonstance dont il s'agit, on nous raconte jusqu'à quel point Saint Pierre en était ravi dans son cœur. S'écria en s'adressant au Christ, « Seigneur, à qui irions-nous ? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Quant à la Samaritaine, est-ce qu'elle n'oublia pas sa cruche et son eau, tant elle trouva de douceur dans les paroles du Fils de Dieu ?» Voyez, interprétation mystique des paroles de l'Écriture. Selon le père Feuillet, un véritable exégète doit tenir compte de ce que la manière dont les saints interprètent l'Écriture. Et je crois ça très important, parce qu'il y a une lignée, il y a une tradition dans l'Église, et on n'a pas à perdre cette tradition. Et le théologien n'a pas à la perdre, il est gardien de la tradition, et il faut que la tradition reste vivante. Et c'est très beau de voir la manière dont, de fait, ici, Saint Jean de la Croix, ces diverses paroles, il les relie directement. Oui, verbum spirant amorem. C'est l'Esprit Saint qui agit dedans. Mission de l'Esprit Saint qui transforme notre âme. Or, cette âme, se trouvant si près de Dieu, qu'elle est transformée en cette flamme d'amour, où le Père, le Fils et le Saint-Esprit lui sont communiqués. Est-ce qu'il serait incroyable qu'elle goûte quelque peu à la vie éternelle, quoique d'une façon imparfaite, à cause des conditions de la vie présente, la foi et l'espérance? C'est à cause de la foi et de l'expérience, comme dit Cajetan, que la charité n'est pas entièrement libre dans son exercice. C'est très beau comme expression. La foi et la charité fait que la charité, la foi et l'espérance font que l'exercice de la charité est un peu captif, en captivité. Et donc, ils ne peuvent pas, l'exercice de la charité ne peut pas être aussi plaigné qu'ils le voudraient. Mais les délices dont elle est inondée sont tellement élevées que cet amour ardent que l'Esprit Saint produit en elle lui donne déjà à savourer ce que sera la vie éternelle. Aussi l'appelle-t-elle une vie flamme. Ce n'est pas que cette flamme soit toujours ardente, mais parce que l'effet qu'elle produit est tel qu'il la fait vivre en Dieu spirituellement et sentir la vie de Dieu de la même manière que l'éprouvait David quand il dit: mon cœur et ma chair ont tressailli d'allégresse dans le Dieu vivant. Dieu est appelé vivant, non que ce fût nécessaire, puisqu'il l'est toujours, mais pour donner à entendre que l'esprit et le sens le goûtent d'une manière vive, une fois qu'ils sont devenus vivants en lui. C'est alors que l'on goûte le Dieu vivant. C'est là la vie en Dieu et la vie éternelle. David ne l'aurait pas appelé vivant s'il ne l'avait pas goûté d'une manière vive, bien qu'imparfaite, et s'il n'avait eu comme une vue de la même vie éternelle. Or, l'âme sans Dieu vivement dans cette flamme, et elle en jouit avec tant de saveur et de suavité qu'elle s'écrie: ô vive flamme d'amour! Alors pensez aussi à ce que nous disions tout à l'heure à propos de l'âme. disais, par rapport à ça, par rapport à la conception théologique de l'âme chez saint Thomas. Et si vous avez une conception qui ne va pas jusque dans ce regard sur l'âme, vous avez beaucoup de peine à comprendre ça. C'est sûr. Il faut une âme très spiritualisée, on dirait. Et l'âme très spiritualisée, ça veut dire quoi? Divinisée, déifiée. Et c'est pourtant l'âme dans ce qu'elle est, mais qui est transformée par l'amour. Et parce qu'elle est transformée par l'amour, elle est justement capable d'être divinisée par la charité. Mais si elle est capable d'être divinisée, c'est parce qu'il y a en elle cet aspect spirituel qu'elle subsiste en elle-même. Comment on ne pourrait pas? On ne pourrait pas expliquer ça. Or, l'âme sent Dieu si vivement dans cette flamme, et elle en jouit avec tant de saveur et de suavité qu'elle s'écrie « Ô vive flamme d'amour !» Blessé avec tendresse, c'est-à-dire comme la touche de votre amour est délicate. Cette flamme étant une flamme de vie divine, blesse l'âme avec une tendresse de vie divine. Elle la blesse et l'attendrit d'une manière si profonde et si intime qu'elle se liquéfie en amour pour que s'accomplisse en elle ce que l'épouse au livre du Cantique affirme, qui éprouvait ses sentiments d'une façon si spéciale. Dès que l'époux a fait entendre sa voix, mon âme s'est liquéfiée. Tel est l'effet que la parole de Dieu produit dans l'âme. Vous savez bien, saint Thomas parle des effets de l'amour, la liquéfaction. Il dit ça dans son traité des passions, à propos des effets de l'amour. Alors, vous voyez bien ce que c'est que l'âme qui se liquéfie. Là, vous avez une expérience de sainte Thérèse, de saint Jean de la Croix, qui est dite avec beaucoup de force. Saint Thomas parle aussi de la blessure de l'amour. C'est très très important de voir ça, de voir que sainte Thérèse et que saint Jean de la Croix reprend ces expressions. Elle la blesse et l'attendrit d'une manière si profonde et si intime qu'elle se liquéfie en amour pour que s'accomplisse en elle ce que dit l'épouse au Cantique des Cantiques. Dès que l'époux a fait entendre sa voix, mon âme s'est liquéfiée. Tel est l'effet que la parole de Dieu produit dans l'âme. Mais comment peut-on dire que cette flamme blesse l'âme dès lors qu'étant tout entière embrasée du feu de l'amour, il n'y a plus rien en elle à blesser? Puisque c'est substantiel. Donc quelque chose d'indivisible. On est au-delà de la quantité, de l'extension. L'âme dans son profond, elle a quelque chose d'indivisible. Et l'action de l'Esprit-Saint est absolument aussi indivisible. Et c'est une chose merveilleuse que l'amour. Il n'est jamais en repos. Il est au contraire toujours en mouvement. Comme la flamme qui se porte toujours ici et là. Alors ça, c'est aussi très important à bien saisir. Mais c'est une chose merveilleuse que l'amour. Alors il prend l'amour ici. Hein. Mais tout ça est vrai de l'amour humain. Mais infiniment plus vrai de l'amour divin. Mais c'est vrai de l'amour humain. C'est pour ça que quand saint Thomas dit que l'amour blesse, noblesse que l'amour liquéfie, que l'amour est tout le temps en mouvement. Il n'est jamais en repos, et pourtant il donne le repos, puisque l'âme ne peut se reposer dans l'amour. Mais c'est une chose merveilleuse que l'amour. Il n'est jamais en repos, il est au contraire toujours en mouvement, comme la flamme qui se porte toujours ici et là. Or l'amour, dont la nature est de blesser pour provoquer l'amour et communiquer ses délices, se trouve dans cette âme comme une vive flamme. Donc voyez, dont la nature est de blesser, alors là encore, hein, les propriétés et la nature, ça ne fait qu'un quand on est dans un style de théologie mystique. Il ne s'agit pas de distinguer. Je voulais corriger Saint-Jean de Saint-Thomas en professeur de théologie scientifique ou de philosophie. Attention, la nature de l'amour n'est pas de blesser. Je n'étais pas encore assez blessé. Alors allons-y, n'est-ce pas? On voit très bien. C'est pas ça l'amour. Mais c'est une conséquence. Et c'est vrai que tout amour blesse. Sur la terre. C'est du reste pour ça que très souvent on a si peur d'aimer et qu'on essaie de se mettre un tout petit peu à l'écart, parce qu'on sait que ça sera très difficile, ça ira jusqu'à la croix. Or l'amour, dont la nature est de blesser pour provoquer l'amour et communiquer ses délices, se trouve dans cette âme comme une vive flamme. Aussi la blesse-t-il de ses traits, embrasser les plus tendres et les plus délicats. Il est dans la joie et en fait, pour montrer toutes ses industries et ses artifices, dès lors qu'il est dans le palais de l'amour et de ses noces. C'est ainsi que vit Assuérus. Pour son épouse Esther, il lui témoigna ses bonnes grâces et lui montra tous ses trésors et la gloire de sa grandeur. De la sorte s'accomplit dans cette âme cette parole des proverbes: je me plaisais tous les jours à me jouer en sa présence au milieu du monde, et mes délices sont d'être avec les enfants des hommes, c'est-à-dire en me communiquant à eux. Aussi, les blessures faites à l'âme sont-elles les jeux de sa... éternelle. Elles proviennent de flammes aux touches délicates qui, par moments, atteignent l'âme. Car le feu de l'amour n'est jamais oisif. Aussi l'âme, ajoute-t-elle, elle s'arrive et me blesse. Oui, donc c'est le caractère actif de l'amour. Le centre le plus profond de mon âme. profond, dans le centre le plus profond de mon âme. C'est encore plus que le cœur profond, c'est le centre le plus profond de mon âme. Plus Dieu communique son amour, puisque l'âme est en puissance obédientielle,
son extérieur. Elle est complètement
voix, telle qu'elle se présente, comme l'air qui est plus ou moins lumineux, mais l'est d'une manière uniforme. Dans le langage ordinaire, nous appelons le centre le plus profond de l'âme, le point extrême où peut parvenir son être. Cherchez à comprendre. Surtout, ne faites pas la métaphysique, là. Alors, c'est très amusant, c'est ce double langage. Ce langage de Saint Jean de la Croix, ce langage où il essaie de préciser, mais donc sa théologie en œuvre, pas sa philosophie, mais sa théologie en œuvre, ici, dans le langage ordinaire, nous appelons le centre le plus profond de l'âme, le point extrême où peut parvenir son être, sa vertu, la force de son opération et de son mouvement, et qu'elle est incapable de dépasser. Ainsi en est-il du feu et de la pierre. Ils ont une vertu, un mouvement naturel et une force pour arriver au centre de leur sphère qu'ils ne peuvent dépasser, mais où ils ne manquent pas de parvenir et de rester, à moins d'en être empêché par quelques obstacles. D'après cela, nous dirons que la pierre, quand elle est dans la terre, alors même que ce ne serait dans son centre le plus profond, et cependant dans son centre d'une certaine façon, parce qu'elle est dans la sphère de son centre, de son activité et son mouvement. Néanmoins, nous ne dirons pas qu'elle est dans son centre le plus profond, qui est le milieu même de la terre. Elle garde toujours sa vertu, sa force et son inclination à descendre encore. Et elle arriverait jusqu'à ce centre le plus profond et le dernier de tous, si on ne lui enlevait l'obstacle qu'elle a devant elle. Le jour où elle y arriverait, elle ne serait plus par elle-même ni force ni inclination pour se mouvoir encore. Dans ce cas, il faudrait dire qu'elle est parvenue à son centre le plus profond. Voyez l'analogie métaphorique. Pour expliquer qu'est-ce que c'est que ce centre le plus profond de l'âme. C'est du reste très beau, hein. Ce centre le plus profond de l'âme. Là, on voit très bien les mots, plus rien du tout. Mais il y a l'analogie métaphorique. Alors, c'est la pierre qui descend dans son centre le plus profond. Alors, vous voyez l'image, hein, parce que ça, c'est une petite imagination. La pierre serait dans son centre le plus profond, qu'elle rejoindrait le centre de la terre. Le centre le plus profond de la pierre, c'est le centre de la terre. Alors voyez l'analogie pour l'âme. Quel est le centre de la terre pour l'âme? C'est Dieu. Puisque c'est le centre d'attraction. La pierre est attirée. Mais c'est la causalité finale, prise du côté de l'attraction. C'est bon. Alors, le centre de la terre attire. C'est l'image des anciens qui reste vraie. C'est quelque chose que nous pouvons expérimenter. Et alors le centre le plus profond de la pierre, c'est quand elle arrive au centre de l'univers, au centre de notre terre. Or, le centre de l'âme, c'est Dieu. Heureusement, je l'avais dit avant. Je l'avais pas vu. Centre de l'âme, c'est Dieu. Quand il y arrive, selon la capacité de son être, la force de son activité et de ses inclinations, elle est parvenue à son centre le plus profond et le dernier qu'elle puisse atteindre en Dieu. voyez, hein, ce langage mystique, si vous ne voyez plus ce langage mystique, c'est l'ontologisme le plus parfait. Ça qui est très très étonnant, René. C'est là où on voit bien ce que c'est que l'ontologisme, la confusion du point de vue philosophique et du point de vue mystique. Les mystiques sont très vite dans l'ontologisme. Ils sont ordinairement sous le signe du zodiaque du poisson. Alors, c'est les eaux profondes. Non, vous savez, à ce moment-là, l'ontologie. Or, le centre, tous ceux qui sont sous le signe du poisson, faites attention. Or, le centre de l'âme, c'est Dieu. Quand il y arrive, selon la capacité de son être, la force de son activité et de ses inclinations, elle est parvenue à son centre le plus profond et le dernier qu'elle puisse atteindre en Dieu. Il en sera ainsi lorsqu'elle aura employé toutes ses forces à le connaître, à l'aimer, à en jouir. Tant qu'elle n'a pas atteint ce haut degré, et elle ne l'atteint jamais dans cette vie mortelle, où elle est incapable d'arriver à Dieu avec toutes ses forces. Elle peut être dans son centre, qui est Dieu, par la grâce et par la communication qui lui est faite de lui-même. Mais elle a encore la puissance de se mouvoir et de pénétrer plus avant dans ce centre. Elle n'est pas complètement satisfaite. Bien qu'elle soit dans son centre, elle n'est pas encore parvenue à la partie la plus profonde de ce sens. Et elle peut pénétrer davantage dans les profondeurs de Dieu. C'est l'abîme, ça. Elle se pénétrer davantage dans les profondeurs de Dieu. C'est infini. Puisque la communication de l'amour de Dieu à l'âme est infinie. Et plus la communication de l'amour est grand à l'âme, plus l'âme descend dans les profondeurs de Dieu. Et elle peut pénétrer davantage dans les profondeurs de Dieu. Il faut remarquer que l'amour est une inclination de l'âme, une force ou une faculté qu'elle possède pour aller à Dieu. C'est par l'amour qu'elle s'unit à lui. Voilà pourquoi plus elle possède de degrés d'amour, plus elle pénètre dans les profondeurs de Dieu et se concentre en lui. Aussi pouvons-nous dire que par les degrés d'amour que l'âme gravit, nous pouvons compter les degrés toujours plus intimes du centre divin où elle pénètre, car plus l'amour est ardent, plus aussi il est capable d'unir l'âme à Dieu. Et c'est de la sorte que nous pouvons comprendre cette parole du Fils de Dieu qui nous déclare que dans la maison de son Père, il y a beaucoup de demeures. Ainsi, pour que l'âme soit dans son centre qui est Dieu, il suffit, d'après ce que nous avons dit, qu'elle ait un degré d'amour. Car un seul suffit pour qu'elle lui soit unie par la grâce. Si elle en possède deux, elle s'unira à lui et s'enfoncera davantage en lui, en pénétrant dans un autre centre plus intime. Si elle en possède trois, oui, parce que là, c'est juste l'inverse de ce qu'il a dit, on ne peut pas faire ça, ça fait rien de le faire. Il faut bien employer un langage. Parce que 1, 2, 3 dans la grâce. La grâce n'est indivisible. Vous mesurez. C'est très joli ça, parce que ça montre très bien, on rectifie, et puis on renvoie le langage, vertical et l'horizontal. L'horizontal, c'est notre langage. On ne peut pas faire autrement. Notre langage est lié toujours à l'aspect quantitatif, l'aspect extension, on peut le mesurer. Et puis, la fine pointe de l'intelligence atteint la verticale. Et on rectifie, mais si on restait toujours à la verticale, on resterait dans le silence. C'est bien évident. Quand vous atteignez vraiment... plus intime d'elle-même par l'amour de Dieu. C'est alors qu'elle sera transformée, illuminée aussi complètement qu'elle en est capable dans son être, dans ses puissances et dans sa vertu, de sorte qu'elle est semblable à Dieu. C'est là ce qui se produit pour le cristal pur et sans tache quand il est investi de la lumière. Plus il reçoit de lumière et plus il la concentre en lui-même, il arrive même à recevoir une telle abondance de lumière qu'il semble transformé tout entier en lumière. On ne le distingue plus d'elle. Tout ce qu'il a pu en recevoir est étincelant. Il lui est devenu semblable. Quand donc l'âme nous déclare ici que la flamme d'amour l'a blessée dans son centre le plus profond, elle signifie que l'Esprit Saint l'a blessée et l'a investie dans tout ce qui est sa substance, sa vertu et sa force. En s'exprimant de la sorte, elle ne veut pas cependant nous signifier que cette union soit aussi substantielle et complète que dans l'autre vie, où l'on jouira de la vision béatifique de Dieu. Car si l'âme arrive en cette vie mortelle à ce haut état de perfection dont nous parlons, elle ne parvient pas et ne peut parvenir à l'état parfait de la gloire du ciel, bien que Dieu puisse, en passant, accorder quelques faveurs de ce genre. L'âme, en se servant de ce langage, veut donner à entendre quelle surabondance de délices et de gloire elle éprouve par ses communications de l'Esprit Saint. Ces délices sont d'autant plus élevées et plus tendres qu'elle est plus fortement et plus substantielle et plus substantiellement transformée et concentrée en Dieu. Or, ce degré d'amour étant comme le plus élevé auquel on puisse atteindre ici-bas, bien que, je le répète, il ne soit pas aussi parfait qu'au ciel, l'âme l'appelle le sang. Le centre le plus profond, peut-être encore la charité, en tant qu'habitude, sera-t-elle aussi parfaite que dans l'autre vie? Mais il n'en est pas de même de ses actes, de ses fruits, bien que les actes et les fruits de l'amour puissent devenir si parfaits en cet état qu'il ressemble à ceux de l'autre vie. Voilà pourquoi l'âme, s'imaginant qu'il en est ainsi, ne craint pas de dire ce qu'on n'ose dire que de la vie de la gloire, quand elle parle de ce qui se passe dans ce sens, dans son centre le plus profond. Et cette chose très, très belle, Saint Thomas dit qu'il est la vérité, qu'au point de vue substantiel, la charité est la même ici qu'au ciel. Seul l'exercice change. Mais ce qui est très beau, justement, c'est de montrer que la profondeur de l'âme dès cette terre est semblable à celle du ciel. Ça qu'il justifie dans son centre le plus parfait. Je vous relis la fin de la strophe. Apprendre par cœur. Ô vive flamme d'amour, comme vous me blessez avec tendresse dans le centre le plus profond de mon âme. Puisque vous ne me causez plus de chagrin, achevez votre œuvre si vous le voulez. bien déchirer la toile qui s'oppose à notre douce rencontre. La soif de la vision. Mais il n'y a plus que ça.